Et nous allons ce matin donc parler d'un des traits de caractère que Dieu veut produire dans notre vie, qui fait partie du fruit de l'esprit. Il s'agit ce matin de la patience ou la longanimité. Donc ce matin, nous allons parler de ce trait de caractère que Dieu veut produire dans notre vie. Pour cela, nous allons considérer, au sens biblique du terme, ce que signifie la patience. Donc, nous allons parler de ce qu'on entend par patience selon la Bible. Pourquoi parler de la patience? Et nous allons voir son importance dans nos vies. Et ça nous amène à regarder son utilité. En quoi il est utile? Elle est utile. Et nous allons parler des domaines où nous pouvons exercer la patience. Et pour finir, la Bible met beaucoup d'évidence aussi à parler des conséquences de l'impatience. C'est ce que nous regardons en dernier. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la patience ou de la longanimité. Quelle est la nuance entre les deux? La longanimité, hein, c'est un mot grec que vous avez sur le PowerPoint, macrothumia. Il décrit, si vous voulez, la patience qui fait supporter les offenses sans le venger ou sans les punir. C'est ce dernier mot qui est important. Patience qui fait supporter les offenses sans les venger, sans les punir. La patience aussi, c'est un autre mot grec, hypomene. C'est imaginer, devant vous, vous avez une personne qui est allongée et on met plein de choses lourdes sur son dos. Et la patience, c'est l'endurance que cette personne a pour porter la pression, le poids qui est sur lui. Donc ces deux choses sont très importantes à garder à l'esprit. La longanimité, supporter sans venger, sans punir. Et supporter, endurer le poids, c'est hypomene, la patience. Ça, c'est les mots en grec hein, qui décrit la patience. Donc maintenant, parlons de l'importance. Pourquoi c'est important? C'est important d'abord parce qu'aux yeux de Dieu, c'est important. Si c'est important pour Dieu, ça doit l'être aussi pour nous. Et j'aimerais vous donner quelques exemples qui mettent en évidence l'importance de cette vertu pour Dieu. Donc on peut le voir dans son approbation de cette vertu dans les églises locales. Vous voyez? Et nous pouvons voir l'église d'Éphèse en Apocalypse 2, versets 2 et 3. Nous lisons ceci. « Je connais tes œuvres. » Ton travail et ta persévérance, hypomene. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, hypomene, que tu as souffert à cause de mon nom. À deux reprises, le Seigneur souligne, quand il regarde la vie de cette église locale, la patience qui décrit un des attributs qui est vu par le Seigneur à travers cette église. Regardons l'église de Thyatire, Apocalypse 2, 13. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, c'est le mot hypomene, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. De même, c'est l'approbation concernant l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, Hypoméné, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il parle, il fait allusion de la grande tribulation qui viendra. Non seulement c'est très important aux yeux de Dieu, mais l'apôtre Paul aussi montre combien à ses yeux c'est important cet attribut. Et il loue une église que nous connaissons, une église très très jeune, et qui était née dans la souffrance, en 3 semaines, dans le contexte des persécutions, l'église de Thessalonique est née. Et Paul dit ceci à leur égard. « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance, de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. » Donc c'est important. Mais on peut se poser la question ce matin. Pourquoi la patience est alors si importante aux yeux de Dieu et aux yeux de l'apôtre Paul selon vous? Pourquoi elle est si importante à vos yeux? Peut-être vous le dites, vous pensez, mais vous ne le dites pas à haute voix, parce que Dieu est patient, il veut que nous lui ressemblions aussi à être patient comme lui, n'est-ce pas? 1 Pierre 3:20. Dieu, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, la patience de Dieu, Dieu est patient, il veut nous voir revêtus de ce trait de caractère, la patience. Ça, c'est une des raisons de son utilité, mais aussi, la patience, c'est quelque chose qui se cultive, donc qui doit être cultivé. Romains 5, versets 3 à 4, doit être cultivé et démontré. Et comment? Dans les afflictions. Romains 5, versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit, retenez ce verbe, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Le mot ici utilisé, persévérance, c'est hypoméné. Au verset 3 et verset 4. Je m'intéresse surtout à produire. Le verbe produire décrit un processus, quelque chose en cours, étape par étape, pour arriver à la conclusion ou à la finalité. Et vous savez, le passage dit, pour y arriver, Dieu se sert des afflictions, des tribulations, les pressions de la vie. Pour chacun de nous, cette pression, ce poids, peut-être c'est différent. Peut-être c'est financière, peut-être au niveau du travail, peut-être par rapport à la santé, peut-être les projets qui tardent à venir, peut-être les échecs, que sais-je. Ces pressions sont de différentes couleurs. Et il y a beaucoup de jeunes parmi nous ce matin, peut-être cette pression est déjà là et Dieu a permis providentiellement pour votre vie pendant votre jeunesse. Je vous encourage, ne la fuyez pas, ne rouspétez pas, c'est l'école de la patience. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Oui, Dieu permet la pression, les poids que vous portez, parce qu'il veut témoigner de sa bonté envers vous. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas le fruit, mais vous le verrez plus tard et vous vous dites, merci Seigneur, heureusement que je suis passé par là. Parce que comment aurais-je pu réagir de la bonne manière si ça m'est arrivé aujourd'hui? Et Dieu nous forme dans la jeunesse à être patient. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Donc, l'utilité pour ressembler à Dieu, l'utilité... La patience doit être cultivée. Il n'est jamais acquis. Il faut cultiver chaque jour. Mais aussi, l'utilité, c'est pour notre maturité spirituelle. Regardez Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4. C'est pour notre maturité spirituelle. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit hypoméné, la patience. Mais il faut que, ça c'est le, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Dans quel but? Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Dieu veut, dans les églises, des hommes et des femmes parfaits. Quand le mot parfait ici, il ne s'agit pas d'une perfection morale. Ça sera dans la présence du Seigneur, mais pas pour l'instant. Mais le sens de complet ici, c'est le grec téléos, ça veut dire quelqu'un de complet. Rien ne lui manque. Équipé. Ça, c'est le sens ici. Et donc, il faut quand même accepter avec joie les épreuves. C'est le moyen utilisé par Dieu pour arriver à ce but. C'est le passage, je dirais, obligé. Et le mot ici, et le moyen que Dieu utilise, c'est le test. L'épreuve, c'est le mot test. Et vous savez, quand un fabricant de véhicules sort une nouvelle marque, un prototype de ce véhicule va passer, par exemple, le crash test. De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement de tester le système de freinage, les airbags, mais surtout aussi la capacité de la carrosserie à absorber l'énergie cinétique. On va faire rouler la voiture à certaines vitesses et on va regarder comment ça réagit. Donc le test est utile pour notre sécurité quand nous prenons le véhicule parce qu'il a subi ce test. Mais aussi pour les jouets des enfants et plein de choses dans notre vie quotidienne. Je prends par exemple la peluche. Quand vous achetez des jouets pour vos enfants, sachez-le que ces jouets, avant d'être mis sur le marché, ont subi différents tests, épreuves. C'est le mot que Jacques utilise ici. Et une fois qu'il a passé le test, il a réussi, eh bien, on peut lui marquer la norme CE. Vous voyez dans les petits jouets, CE, la marque, donc conforme aux normes européennes, et on peut le mettre sur le marché. J'aimerais juste, pour vous montrer le test qu'on fait subir à une peluche. Pour une peluche, donc, pour protéger les enfants du danger que ça peut occasionner, il faut vérifier le rembourrage. Ça veut dire, on va déchirer la peluche pour sortir ce qu'il y a dedans, pour voir si l'enfant peut s'étouffer avec. Vous voyez ? On peut aussi lui faire subir une traction sur la peluche pour savoir si ça se déchire facilement ou pas. On veut arracher les yeux des peluches aussi pour voir si l'enfant peut l'arracher et risque de l'avaler. Vous voyez? On peut aussi se faire subir le test de flamme pour savoir si les tissus sont inflammables. Vous voyez tous les tests qu'on fait subir à une peluche avant qu'il ait la marque CE et on peut l'acheter. Donc vous voyez par cet exemple que le test ou l'épreuve est indispensable pour la qualité et la sécurité au moins des objets, des jouets et ce que nous voulons de donner comme exemple. Et combien plus, chers frères et sœurs, cela nous donne une idée de son importance dans le domaine spirituel. Souvent, nous ne négligeons. Parce que le monde nous fait croire que quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de faible, qui ne s'ose pas s'affirmer de suite. Une idée de faiblesse, quelqu'un qui n'a pas l'affirmation de soi. Ça, c'est les mentalités qu'on véhicule. Et parfois, inconsciemment, on réagit de telle manière. Détrompez-vous. C'est important. Et vous savez, ce que je veux faire maintenant, je veux prendre l'image, comment on teste un véhicule, le crash test, comment on teste les peluches, et l'appliquer dans le domaine spirituel maintenant. Nous parlons du fruit de l'esprit. Passons au test, la paix. Ce fruit de l'esprit, dont notre pasteur en a parlé. Vous savez, je ne peux pas dire que je vis dans la paix de Dieu de manière grandissante et durable à moins de vaincre de plus en plus l'inquiétude. C'est l'ennemi numéro un qui nous fait saper la paix. Donc vous voyez, l'inquiétude est un péché. Si nous sommes tentés, la tentation n'est pas péché, mais le fait de céder à la tentation qui est péché. Et le fait de vaincre, petit à petit, chaque fois qu'on est exposé à cela, nous donne une idée que je grandis petit à petit dans la paix de Dieu, devant les circonstances défavorables. Passons au test de la bonté. Quand nous sommes tentés devant des circonstances à réagir avec méchanceté, à faire du mal, à nous venger, au lieu de chercher le bien de l'autre, nous grandissons en maturité dans ce domaine quand nous y sommes victorieux petit à petit. Attendez-vous, si ce n'est pas déjà fait, que Dieu permettra dans votre chemin, que ce soit au travail, que ce soit dans le voisinage, pour vous apprendre la bonté quand vous êtes... Ça bouillonne de réagir avec méchanceté ou vouloir se venger. C'est ça le test. Et Dieu nous met à l'épreuve chaque jour au quotidien pour que ce fruit soit là, de manière grandissante. À la manière du test, comme j'ai illustré pour les peluches, pour les voitures. Regardons aussi le test pour la maîtrise de soi. Quand nous sommes tentés devant des circonstances qui poussent à perdre la maîtrise de soi ou le contrôle de nos passions, de nos pulsions, l'orgueil, le sexe, l'argent, la colère, la jalousie, et que sais-je, n'est-ce pas? Nous grandissons en maturité dans ce domaine de la maîtrise de soi quand nous y sommes victorieux petit à petit face aux circonstances qui nous font perdre le contrôle des convoitises de notre chair. C'est pour cela que la lutte que vous menez, la Bible parle d'un bon combat. Parce que c'est le combat contre la chair en nous qui veut nous pousser hors de la maîtrise de soi, mais l'Esprit veut produire en nous qu'on le laisse diriger, contrôler notre vie, produire ce fruit merveilleux qu'est la maîtrise de soi. Vous voyez? Passons au test de la foi, qui est le fruit de l'esprit. Quand nous faisons face à des circonstances qui peuvent nous faire douter de Dieu, comme s'il ne s'occupe pas de nous face aux pertes, face aux échecs, face aux maladies, face à plein de choses. Nous grandissons dans la foi quand notre confiance est placée en Dieu en face de ces circonstances. Et nous ne prenons pas la décision de juger les choses par l'apparence. Vous voyez? Donc chaque jour, nous sommes inconscients, mais les contextes providentiellement sont produits par Dieu pour faire sortir et grandir par ces tests au quotidien, ces fruits dans notre vie. Prenez-en conscience que cela, c'est ce que Dieu veut. Chers frères et sœurs, Dieu veut transformer notre caractère dans l'école de la patience au moyen des épreuves. Dieu vise à ce que nous soyons équipés et rien ne vienne à manquer dans nos traits de caractère pour nous ressembler à Christ. Vous voyez? Donc, tous ces tests, prenons-les comme une opportunité que l'Esprit puisse travailler en nous pour produire le fruit qui est agréable à Dieu. Donc, notre combat est contre la chair en nous et Dieu veut agir en nous par l'Esprit de Dieu. Si nous le laissons le contrôle de tous les aspects de notre vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être les tests, vous l'avez déjà vécu dans divers domaines. Et peut-être ça va venir, si ce n'est pas déjà fait. Mais prenez conscience maintenant de l'enjeu, prenez-les comme une opportunité de Dieu pour travailler en moi le fruit pour que je ressemble à Christ. Et quand je ressemble à Christ, les gens vont être attirés à Christ par notre témoignage. Vous voyez, l'enjeu est de taille. Nous allons maintenant regarder quelques domaines où l'on peut exercer la patience. Ils ne sont pas exhaustifs, j'ai pris parce que le temps est long, quelques domaines dans le domaine de la souffrance. Et nous allons penser à Job. Job, Jacques, chapitre 5, verset 11. Jacques nous dit ceci, « Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment, c'est hypoméné ici, vous avez entendu parler de la patience hypoménée de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Je dirais, il est plus difficile de trouver un meilleur exemple de souffrance et surtout de la patience dans la souffrance que l'exemple de Job. Tout était contre lui. Et à notre vocabulaire aujourd'hui, il a eu la totale. Les uns arrivent après les autres, submergés. Les circonstances étaient contre lui. Nous savons l'histoire de Job, qu'il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse et sa santé. Sa femme était contre lui. Il disait même, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Ses amis étaient contre lui, car il l'accusait d'être un hypocrite et mérite le jugement de Dieu. Et il semblait même que Dieu était contre lui. Lorsque Job a crié au ciel pour obtenir des réponses à ses questions, aucune réponse ne s'est fait entendre. C'est vrai que Job s'est posé des questions au sujet de la volonté de Dieu, mais il n'a jamais abandonné la foi. Au milieu de son incompréhension, il s'accroche à Dieu et continue à espérer en lui, même s'il ne comprenait pas tout ce que Dieu essaie de faire. Je ne sais pas ce qui est dans votre vie aujourd'hui, les luttes que vous menez. Mais sachez, dans l'exemple de Job, qu'il disait ceci, voici, quand même il me tuerait, il parle à Dieu, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Quelle foi! Quelle foi! Quelle confiance! Jacques termine l'histoire de Job en disant, vous avez entendu parler de la patience de Job, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Cette patience qui endure et qui continue à croire en Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Nos circonstances, parfois, nous ne comprenons pas le pourquoi ils sont là maintenant. Et pas, peut-être dans cette vie, vous n'allez jamais le comprendre. Mais Job nous donne l'exemple. Continuez à croire, continuez à croire, continuez à croire, même si les circonstances sont contraires, continuez à croire. Domaine aussi où la patience peut être exercée, c'est le domaine du pardon. Donc, je vais regarder le pardon de Dieu à notre égard. Romains chapitre 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Là, cette fois-ci, c'est macrothumia, le mot. De sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Je vais le relire. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Il est clair, dans ce que Paul est en train de dire ici, que le but de la patience de Dieu est de donner l'occasion à l'homme pour se repentir. Quel est le fond de l'histoire dans Romains? Le fond de l'histoire ici est que la colère de Dieu contre le mal serait juste. Mais, écoutez bien ce qui est mis en avant selon ce verset, c'est sa bonté, sa patience, sa longanimité. Dieu serait en droit de punir et non d'être patient. Vous voyez là, ce n'est pas de signe de faiblesse. Au contraire, le jugement qui est là est suspendu parce que Dieu use de patience. Et c'est ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, Dieu est en droit de nous punir. Mais la punition que nous méritons, Jésus-Christ l'a pris à notre place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement de venir à lui, de dire, je capitule. En ai assez d'être esclave du péché, je viens en toi. Délivre-moi, sauve-moi aujourd'hui même. Et Dieu peut le faire. Ça fait réfléchir. Hein? Dieu a un droit de punir, mais il suspend son jugement et il met en avant sa bonté, son amour. C'est quelque chose. Donc, sa longanimité a toujours un but premier de miséricorde. Et vous savez, Paul est un exemple qui illustre la patience divine, qui démontre la preuve de la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Ce qui motive Dieu, c'est son amour qui se démontre envers l'humanité pécheresse en étant patient. parce qu'il veut leur faire miséricorde, nous voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais j'attire votre attention, c'est important ici. Il ne faut pas oublier que cette manière d'agir de Dieu, d'être patient, qui suspend son jugement, n'est que pour un temps. C'est le temps de la grâce. Un jour, la patience de Dieu aura été amenée à son comble, et c'est sa justice en jugement qui sera manifestée. Donc ne prenez pas la patience de Dieu pour une espèce de faiblesse de sa part, une preuve qu'il n'existe pas, et donc qu'il ne punira pas. C'est ce que beaucoup pensent, qu'il n'a pas besoin de venir devant la présence de Dieu un jour et de rendre compte de sa vie. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Aujourd'hui, c'est le temps favorable, c'est le jour du salut. Je vous encourage, prenez conscience de la destinée de votre âme. Venez à Jésus, accepte-le comme votre Sauveur et Seigneur. Voyez, dans le domaine du pardon, comment nous voyons Dieu patient. Et c'est sa patience qui m'a permis de venir à Jésus-Christ et faire partie de son peuple. Mais maintenant, l'autre aspect aussi, regardons maintenant la patience et le pardon que l'on doit aux autres envers nos frères et sœurs. Je vous amène à regarder Matthieu 18, versets 21 à 35. Vous connaissez cette histoire, ce parabole de l'inflexible serviteur, décrit en Matthieu 18, versets 21 à 35. Et vous savez ce qui est intéressant? C'est que cette parabole suit immédiatement l'instruction que le Seigneur donne sur comment réagir si un frère venait à pécher contre soi. Ça, c'est ce qui est développé en Matthieu 18, du 15 à 20. N'est-ce pas? Et maintenant, Jésus demande à Pierre d'être prêt à pardonner non seulement 7 fois, vous savez, les pharisiens exigeaient 4 fois, mais Jésus est allé plus loin 7 fois, et encore plus, jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est un nombre illimité. C'est pour dire que le pardon que Dieu attend de nous, c'est un pardon sans limite. Sans limite. Et vous savez, la parabole de l'inflexible serviteur illustre bien l'attitude divine de patience et de pardon que l'on doit envers nos frères et sœurs, et les autres. Donc il y a un premier serviteur qui devait au roi 10 000 talents. C'est une somme colossale à l'époque. Et ce serviteur ne pourrait jamais le payer. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Alors que le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience, macrotumia, envers moi, et je te paierai tout. » Qu'est-ce qu'il fait? Il va implorer la patience du roi afin de pouvoir lui rendre. Mais ce qui est formidable et ce qui illustre le cœur de Dieu, c'est que le roi fait plus, il va lui remettre en entier sa dette pour ce serviteur qui lui doit 10 000 talents. Et maintenant, ce serviteur a un autre compagnon qui lui doit 100 deniers. Un denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier à l'époque. Et donc, lui qui lui a été, donc on lui a remis 1000 talents, une somme colossale, maintenant quelqu'un lui doit 100 deniers, l'un de ses compagnons. Alors, il fit mettre en prison malgré une demande de patience, comme il avait lui-même fait au roi. Nous lisons verset 29, « Son compagnon se jetant à terre, le suppliait disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Et sous la nouvelle de cet événement, le roi fit mettre le serviteur intraitable en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Quel est l'enseignement de cette parabole? Le point central, je dirais, la clé de la parabole est ceci, « Nous pardonnons aux autres comme on était l'objet du pardon divin. » Et ce pardon est sans limite. Je répète, nous pardonnons aux autres comme on était l'objet du pardon divin, et ce pardon que Dieu attend de nous est sans limite. Et vous savez, ce qui me frappe encore quand je relis cette parabole, c'est que ce n'est pas par son sentiment qui est mis en avant pour qu'il aille pardonner, mais tout simplement le pardon qu'on lui demande est directement lié à l'attitude qui lui a été démontrée. Ce n'est pas lui, quand il a envie, mais par rapport à l'attitude du roi qui lui a été démontrée. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous lisons verset 33, « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Oui. Combien nous avons des dettes envers les autres et que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir pardonner. Il y en a ceux qui disent, mais mon père était dur, je ne pourrai jamais oublier ce qu'il m'a fait. Il m'a fait tellement du mal. Au moment où j'ai besoin de lui, il m'a lâché. Et comment je lui pardonnerai? Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Un pardon sans limite. Peut-être vous avez ce problème à régler avec vos frères, sœurs, dans la famille, avec les collègues, les voisins, je ne sais quoi. Mais la parole de Dieu est claire. Combien notre dette est colossale et Dieu nous a pardonné de toute notre dette. Elle a été remise. Et si quelqu'un nous fait l'offense, nous devrions aussi pardonner. Et à chaque fois pardonner, sans limite, c'est ce que Dieu attend de nous. Chers frères et sœurs, il faut la grâce de Dieu pour faire cela. Et s'il faut l'obéissance aussi pour faire cela. Il y a des personnes qui sont malheureux le restant de leur vie parce qu'ils ont gardé une amertume, un rancœur dans le cœur, ils sont rongés. Je me rappelle un proche de ma famille, jusqu'à la fin de sa vie, la personne qui l'a offensé est venue pleurer devant son lit de mort. Jamais il n'a voulu pardonner. Il est parti devant le Seigneur avec de telles attitudes. C'est triste. Et c'est un serviteur de Dieu. Vous voyez combien on peut être malheureux quand on ne met pas en pratique ce que Dieu nous demande. Combien il était bon, il était patient envers moi. Qui suis-je pour ne pas être patient avec ceux qui m'offensent? Quand je regarde ce que Dieu a fait pour moi, ça doit automatiquement me pousser aussi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Je voudrais terminer par vous illustrer quelles sont les conséquences du manque de patience. J'aimerais juste parmi beaucoup d'exemples à prendre l'exemple de Moïse. Moïse, vous savez, Moïse a agi sans s'attendre à Dieu. Moïse savait que Dieu l'a choisi pour délivrer son peuple d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Moïse est donc venu auprès de ses compatriotes et il veut venger un Hébreu qui a été frappé et maltraité par un Égyptien. Et nous lisons dans Exode, je vous ai mis là, vous pouvez voir Exode 2, 11 à 15 et 3, 1 et Actes 7, 23 à 30. Il a tué un Égyptien. Il savait que Dieu va se servir de lui pour délivrer son peuple. Mais ce n'était pas de cette manière. Ce n'était pas le temps de Dieu. Nous lisons pourquoi nous disons que Dieu avait choisi Moïse pour délivrer son peuple. Parce que Étienne, dans son long discours, avant d'être lapidé dans Actes 7, nous dit ceci. Il, Moïse, pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. C'est-à-dire par Moïse, mais ils ne comprirent pas. Vous voyez. Alors, quelle est la conséquence de cet acte de Moïse d'avoir tué cet Égyptien? Il était obligé de fuir dans le pays de Madian et a dû passer combien d'années? Combien? 40 ans. Il était obligé de fuir dans le désert de Madian et rester 40 ans pour quoi faire? Pour garder le troupeau de son beau-père Jéthro. C'est la manière comment Dieu a fait pour que Moïse apprenne la patience. 40 ans. Ça nous donne une leçon combien hein? Quelque chose de précipité, sans réfléchir, amène à une conséquence grave. 40 ans. Mais Dieu, providentiellement, a permis pour former Moïse plus tard, pour diriger et délivrer le peuple. Regardons Abraham, aussi dans Genèse 16, nous n'allons pas lire, mais nous connaissons l'histoire. La promesse de Dieu tardait à s'accomplir. Surtout que Sarah était stérile, nous lisons, et alors à la vue humaine, l'héritier de la promesse ne pourrait pas naître d'elle. Elle est stérile. Prend de l'âge. Comment ça se pourrait qu'un fils naîtrait d'elle? C'est pas possible. Alors, la promesse tardait à s'accomplir et ça poussait Abraham et Sarah à contourner la réalisation du plan de Dieu en cherchant à s'appuyer à la coutume de l'époque qui était ce qui était pratiqué à l'époque. C'est qu'une épouse stérile pouvait donner sa servante à son mari pour femme. Ça, c'était le coutume de l'époque. Et l'enfant qui naîtra de cette union était considéré comme l'enfant de la première épouse. Et si le mari disait au fils de la femme esclave, « Tu es mon fils », alors il devenait alors son fils adoptif et héritier. Et oui, c'est la pratique. C'est légal. Qu'est-ce qu'est la différence ? Abraham et Sarah avaient reçu une promesse. Dieu avait dit, c'est comme ça que je veux faire. La fiche de la promesse vient de toi. Mais eux, le temps passe. La chance, à leurs yeux, s'amenuise pour que cela se réalise. Et donc, ils ont utilisé ce moyen humain. Et nous lisons dans la parole de Dieu que l'emploi des moyens humains pour obtenir l'accomplissement des promesses divines ne fait que compliquer la situation et parfois attirer de grandes souffrances le restant de la vie. Vous savez, quand Agar est enceinte, nous lisons que Agar regarda avec mépris sa maîtresse Sarah. Ça commence à aller mal à la maison. Et là, Sarah est obligée de dire à Abraham, sors-le d'ici, j'ai plus besoin de la voir dans la maison. Et nous lisons, Agar s'est enfui de la maison, parti dans le désert. Vous voyez, manque de patience entraîne des troubles dans la maison. Et nous connaissons aujourd'hui les conséquences de cet acte, que les descendants d'Ismaël, que sont les Arabes, sont toujours l'ennemi numéro un des Juifs. Et l'histoire nous le montre aujourd'hui, chaque jour. L'union des pays arabes qui avait même l'idée de ce que Israël soit supprimé de la carte. C'est toujours là, ces choses-là. Et donc ça, c'est les conséquences, vous voyez, le manque de patience, manque de confiance dans la promesse de Dieu amène quelque chose de douloureux dans la maison et pour les descendants plus tard. Donc, jusqu'où amène le manque de patience quand on veut agir sans s'attendre à Dieu? Je fais une petite parenthèse. Vous êtes jeune ici. Vous avez envie de fonder une famille. Je vous supplie, attention, soyez patient, que vous êtes sûr que c'est la volonté de Dieu. J'en ai vu beaucoup, des gens de notre génération dans l'église et des croyants, qui ont gâché leur vie et qui ont fait souffrir le reste de la famille avec des enfants, avec une précipitation de fonder une famille qui n'est pas selon la volonté de Dieu. J'en ai vu. Je vous supplie, soyez patients et attendez le temps de Dieu. Priez Dieu qui dirige. Parce que c'est un domaine où vous allez regretter amèrement et vous ne pouvez plus choisir les conséquences de votre choix. C'est sérieux la patience. Donc j'espère, dans ce que nous venons de nous entretenir, que ça éclaire votre pensée, combien la patience est utile et indispensable. Je voudrais m'arrêter. Donc au regard de la patience, je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Jeune, ou moins jeune. Peut-être jusque-là, vous avez négligé, vous l'avez dit, je me débrouille sans. Mais j'espère que les exemples, ce qui était dit à travers la parole de Dieu, vous surprennent à dire, non, 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 j'ai fait beaucoup d'erreurs. Oh, maintenant, je considère cette chose. Que Dieu touche notre cœur. Vous savez, moi-même, qui est devant vous, combien je sais mon immense besoin de patience. Combien je sais mon immense besoin de patience. Je sais que Dieu veut nous voir patients. Et c'est salutaire. Dieu veut nous voir patients. Et vous savez, quelque chose qui peut nous surprendre, que Dieu va mettre à notre disposition une dynamite. Ce n'est pas une blague. Dans Colossiens chapitre 1, verset 11, Paul priait ceci pour les chrétiens de Colosse. Que vous soyez à tous égards par sa puissance, dynamus, c'est d'où vient le mot dynamite. Fortifié à tous égards par sa puissance, le dynamite, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant, macrotumia, et patient, hypoméné. Colossiens 1, 11. Dieu veut nous voir patients. Et il nous accorde, met à disposition ce dynamite pour que la patience qui est méprisée dans notre société, et même dans cette époque, dans l'Antiquité, vous n'allez pas être applaudi parce que vous êtes patient. Personne n'en veut, hein, parce que ça montre de la faiblesse. Quelqu'un qui n'ose pas prendre sa vie en main, n'est-ce pas ? D'attendre, d'attendre, d'attendre. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais cette vertu qui est méprisée, Dieu peut par son dynamus, la dynamite, vous rendre extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit ici, toujours, en sorte que vous soyez toujours, c'est durable, et que vous soyez avec joie, victorieuse, persévérant et patient. Jusque-là, je vous ai dit, on ne va jamais vous applaudir parce que vous êtes patient. Mais Dieu veut que nous soyons patients. Il nous équipe pour cela. Et quelque chose qui, banal pour les autres, devient extraordinaire à nos yeux parce que Dieu veut nous voir revêtus de cette patience et persévérance. Vous savez, ça a été remarqué pendant le confinement, les personnels soignants qui étaient appréciés, loués, applaudis tous les 20 heures pour les actes de bravoure qu'ils ont fait en se mettant en avant pour nous protéger du coronavirus. Il n'est pas trop tard, le 14 juillet, c'est reconnu par la haute autorité, le président de la République, les gouvernements, ces personnes qui ont donné de leur vie. Ils étaient acclamés, reconnus pour des actes de bravoure et de courage. Mais Dieu veut, même si vous n'aurez pas l'applaudissement, de vous revêtir de la patience et de la persévérance. Et ces vertus qui est banales sous nos yeux devient extraordinaire dans des hommes et des femmes comme vous qui sont ordinaires. Vous voyez, ça c'est le plan de Dieu, ça c'est le projet de Dieu pour nous. Oui, que Dieu puisse faire ce travail. Et vous allez vous rendre compte de plus en plus de besoin de cette patience. Et que chacun de nous soit caractérisé par cette vertu qui est divine. Nous n'avons pas les ressources, mais Dieu l'a. Il nous dispose de dynamite pour accomplir ça en nous. Que Dieu accomplisse cela dans nos cœurs et que nous puissions être de plus en plus conscients de ce besoin et supplier Dieu de nous l'accorder. Il le donne, mais à condition que notre vie soit remplie, dirigée sous le volant, sous la main du Saint-Esprit qui le dirige. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre victorieusement dans la patience. Prions le Seigneur.